Bonjour frères et sœurs en Christ. Je m'excuse de mon arrivée un peu tardive, ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion de saluer beaucoup d'entre vous. Donc c'est fait maintenant, hein, vous qui êtes présents ici, et aussi je salue ceux qui se connectent et qui nous suivent par internet et qui sont derrière leur écran. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin en ce lieu. Et je voudrais vous adresser cette salutation évangélique. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.
Amen.
Alors le titre de notre méditation de ce matin, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, si ça va vous parler, c'est le caillou blanc. Le caillou blanc. Alors je donne un indice, ça n'a rien à voir avec le petit poucet. Le caillou blanc s'est tiré du livre de l'Apocalypse, d'une des lettres de Jésus aux sept églises d'Asie. Et oui, vous avez bien entendu, Jésus a envoyé des lettres. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. C'est écrit dans de Jésus. Donc les lettres sont de Jésus, Jean n'étant que le rédacteur. Alors on va lire Apocalypse 1, versets 9 à 16. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds est semblable à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Alors, rapidement, le contexte de cette lettre. Lettre à Pergame. Donc on se situe vers l'an 95, hein, donc au premier siècle de notre ère. Et les églises d'Asie, eh bien, elles subissaient la persécution ordonnée par l'empereur romain Domitien. Quant à l'apôtre Jean, donc le rédacteur des lettres, eh bien, lui, il avait été condamné à l'exil sur l'île de Patmos, située entre l'Asie mineure et la Grèce, à cause de son attachement au vrai Dieu, à cause de sa proclamation,
de son témoignage pour Jésus. Alors peut-être que certains vont dire, oui, bon, en exil sur l'île de Patmos, en mer Égée, au large de la Grèce, de la Turquie, il fallait savoir que c'était quand même un lieu où il y avait le travail forcé dans les mines. Alors c'est pas dit dans la parole ce qu'il est advenu à Jean, ce qu'on lui a demandé de faire, mais en tout cas, ce n'était pas forcément un lieu de plaisir et de réjouissance, l'île de Patmos. En tout cas, pendant ce temps de mise à l'écart forcée, eh bien Jean, il a reçu cette révélation de Jésus afin de la communiquer aux sept églises. Aux sept églises. Sept églises, en fait, ça veut dire à l'ensemble de l'Église. Parce que sept, c'est le chiffre de la plénitude. le chiffre de la complétude dans la parole de Dieu. Donc cette église, ça représente l'ensemble des églises, ça représente l'église universelle. Apocalypse 1, verset 11 nous dit, donc on reprend ce que nous venons de lire, un verset, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, quand on regarde ces lettres, quand on les lit, on voit que chaque lettre était d'abord destinée en particulier à une église locale du 1er siècle, une église historique, une église qui a existé à ce moment-là, qui avait des problèmes spécifiques, donc il y avait dans ces lettres eh bien, les bons points et les insuffisances. Mais ces lettres, elles parlent aussi à toutes les générations de chrétiens. Parce que les situations qui ont été évoquées dans ces sept lettres, aux sept églises historiques, eh bien, on les a retrouvées au cours des 21 siècles maintenant de l'histoire de l'Église. Alors on peut considérer que ces sept assemblées eh bien, sont la représentation de l'Église dans son intégralité et dans sa diversité. Et qu'il y a donc toujours un message pour les églises d'aujourd'hui. Ce qui a été dit à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, etc., etc., eh bien, ça nous concerne aussi dans notre vie d'église aujourd'hui. Et ça nous concerne aussi en tant que chrétiens individuellement. Ce n'est pas simplement l'église en tant qu'organe qui est concernée, avec son pasteur, ses anciens, ses responsables, etc., mais on a aussi une responsabilité individuelle par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie. L'obéissance. L'obéissance. Alors ces églises locales, on vient de le dire, elles illustraient des situations particulières. Alors le temps manquerait évidemment ce matin d'étudier chacune des sept lettres. On a déjà eu l'occasion de s'intéresser à la lettre à l'église d'Éphèse il y a quelque temps. Cette église qui était l'église de la perte du premier amour. Aujourd'hui, ce matin, on va se contenter d'examiner la troisième lettre, celle qui est destinée à l'église de Pergame. On lit ce courrier. Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. La ville de Pergame, c'était une ville prospère de l'Antiquité, une ville grosso modo équivalente à Aix-en-Provence au niveau de la population, environ 150 000 habitants, 200 000 habitants, quelque chose comme ça. Et c'était dans la province romaine d'Asie, un centre important, donc, au niveau politique, parce que cette ville abritait le QG du tout-puissant gouverneur, le proconsul de Rome. C'était un centre important au niveau économique, avec l'industrie du parchemin, des peaux de mouton qui étaient traitées pour servir de support à l'écriture en remplacement du papyrus. À cette époque-là, c'était le papyrus qui était à la mode, on va dire, entre guillemets, mais c'était entre les mains des Égyptiens. Et donc, il y avait une lutte hein, au niveau économique, et donc Pergame avait développé le parchemin, qui vient d'ailleurs du nom de Pergame. Pergame, ça s'est transformé en parchemin à travers les âges. Hein. Et c'était aussi un centre important culturel. On avait une bibliothèque, est-il dit, de 200 000 volumes. Ce qui me semble-t-il à l'époque quelque chose d'impressionnant. 200 000 volumes à la bibliothèque de Pergame. Et puis la vie religieuse païenne, elle était aussi très florissante à Pergame. C'était vraiment un centre de paganisme important. Il y avait de nombreux temples avec les principales divinités qui étaient Zeus, dont le nom complet est Zeus Soter, ce qui veut dire en grec le dieu sauveur. On fait la relation. Il disait être le père des dieux et le seigneur du ciel. Et en son honneur, eh bien, il y avait un temple gigantesque et uniquement l'autel du temple était quelque chose de monumental. Le socle avait 37 mètres sur 24 au sol et une hauteur de 12 mètres. Quelque chose d'impressionnant. Il y avait le temple d'Athéna, déesse de la guerre, de la sagesse, des artistes, des artisans. Il y avait le temple de Dionysos, Bacchus en latin. Dieu de la fête et du vin, est-il dit dans les documents, on peut dire aussi Dieu de la débauche. Et il y avait aussi le temple d'Asclépios, Esculape en latin. Et lui aussi, c'était Asclépios Soter, c'est-à-dire Asclépios Sauveur. C'était le dieu de la médecine qui avait le serpent pour symbole. Symbole qui reste encore aujourd'hui dans les professions médicales et paramédicales. Le serpent enroulé autour d'un bâton. Ça vient de là, hein? Et dans le temple d'Asclépios, eh bien, il y avait une source curative et on venait de tout l'Empire romain pour y chercher la guérison. Soit par des bains, des prières, ça fait penser à Lourdes, ou en touchant des serpents. Il y avait des serpents qui étaient lâchés dans le temple et si on touchait le serpent, ou si le serpent nous touchait, eh bien, on considérait que c'était un attouchement du dieu Esculape et que donc on était guéri. Et puis, cerise sur le gâteau, si on peut dire, dans cette ville de Pergame, pour des raisons politiques, pour s'assurer l'allégeance des différents peuples, de la mosaïque de peuples qui constituait l'Empire romain, eh bien, pour ces raisons politiques, on a mis en place le culte impérial, le culte de l'empereur. Et c'est à Pergame qu'on a construit le premier temple de tout l'Empire hors Rome, en l'honneur d'un empereur vivant. Cet empereur s'appelait Auguste, et on devait donc l'honorer en tant que dieu, ainsi que tous les autres empereurs qui vont suivre. Et donc, Pergame, du coup, eh bien, est devenu un lieu de glorification du culte de l'empereur. Il fallait confesser César Kyrios, ce qui veut dire César Seigneur. Et ça, pour un chrétien, ce n'était pas possible. L'idolâtrie était reine à Pergame. Et c'est pour toutes ces raisons que, à un moment donné, le Seigneur qualifie Pergame de trône de Satan. Il y avait là une ambiance spirituelle tellement pesante, tellement lourde, que c'était le trône de Satan. Et voilà que dans ce paganisme ambiant, dans ce poste de commandement spirituel de Satan, on pourrait dire, hein, dans cette atmosphère probablement fort hostile, une atmosphère tout à fait défavorable au témoignage chrétien, eh bien, Dieu a suscité une église. Alors ça ne devait pas être simple d'être un enfant de Dieu en étant cerné par toutes ces idoles, toutes ces pratiques idolâtriques et les autorités qui demandaient particulièrement l'adoration de la statue de l'empereur. Une fois par an, il fallait s'acquitter de brûler de l'encens au pied de la statue et on recevait un certificat qui stipulait qu'on avait bien fait notre devoir. Les chrétiens, adorateurs du seul vrai Dieu, vivant et vrai, eh bien, ne pouvaient pas se soumettre à cette exigence. Et par leur refus, enfin, les vrais chrétiens, parce que là, les chrétiens, on va dire, du dimanche, les chrétiens d'opérette, les chrétiens pour l'image, là, ils n'y étaient plus. Hein. Mais les vrais chrétiens, les vrais convertis, eh bien, ils savaient qu'ils s'exposaient à la persécution en refusant d'accomplir cela. Il fallait donc se déclarer pour Jésus, et ça, c'était parfois au prix de sa vie. Alors, qu'est-il advenu de cette église de Pergame, dans ce lieu pesant, dans ce lieu sinistre ? Alors on va lire une partie du message que Christ lui a fait parvenir, donc c'est le verset 13 d'Apocalypse 2. Jésus dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Et même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, tu n'as pas renié ma foi. » Et on voit que, malgré la violence de la persécution, malgré l'assassinat donc, du frère Antipas, dont le nom en grec veut dire « contre tous », Antipas, c'est très symbolique de la situation, hein, eh bien, il est qualifié de témoin fidèle par le Seigneur dans cette lettre. Et on peut également traduire le mot « témoin fidèle » par « martyr fidèle ». C'est le même mot qu'on peut traduire soit témoin, soit martyr. C'est-à-dire qu'il est témoin fidèle, il est martyr fidèle parce qu'il a témoigné jusqu'au point de mourir, comme Jésus lui-même. Apocalypse 1, verset 5, on voit que Jésus-Christ est aussi appelé le témoin fidèle. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Christ est le témoin fidèle, comme Antipas a été le témoin fidèle. Il n'a pas renoncé, il n'a pas mis sa bannière dans sa poche. Alors parfois, on hésite à témoigner de notre foi, parce qu'on estime que dans notre vie, les résultats ne sont pas vraiment évidents. On a un peu honte. Mais il faut bien se dire que témoigner de Jésus, c'est dire ce qu'il a fait pour nous, et pas ce qu'on fait pour lui. Hein ? Dire ce qu'il a fait pour nous, pas ce que nous on fait pour lui. Ce n'est pas ça que les gens attendent. Hein ? Il a prouvé la grandeur de son amour envers nous en nous délivrant de nos péchés, en mourant sur la croix. Amen. Alors Jésus, il nous montre qu'il connaît le contexte difficile, très difficile de cette église. Et il commence par lui faire des éloges. Des éloges, des compliments parce qu'elle n'a rien renié. Ça ne devait pas être facile. Les chrétiens sont félicités pour leur persévérance dans l'épreuve. Il les complimente. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Dieu connaît son assemblée de Pergame, comme il connaît chacune de ses assemblées, avec leurs particularités. Soyons certains que le Seigneur se soucie de notre assemblée aussi, qu'il la connaît aussi. Mais voilà que l'église de Pergame va compromettre son témoignage. Et elle va devenir l'église du mélange, l'église du compromis. Et significativement, le nom Pergame signifie mariage, pour le mariage, Pergame, pour le mariage. Marié dans le sens de mélanger, d'associer. On dit par exemple, telle ou telle couleur se marie bien, ou telle autre ne se marie pas du tout. Pergame signifie pour le mariage. Et à Pergame, il va y avoir effectivement le mariage, le mélange entre l'idolâtrie et la sainteté. Et Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Deutéronome 6, versets 14 et 15, nous dit « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. » C'est sévère. Alors après les compliments, Dieu dit, verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Ça, c'est pas une bonne chose d'entendre ça de la part de Jésus. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. L'Église, qui s'était tellement bien comportée dans la persécution, eh bien peut-être lorsqu'il y a une baisse de la pression, on va dire, eh bien, elle laisse s'infiltrer en son sein des fausses doctrines. Peut-être simplement pour dire, vous voyez, on est comme vous, hein. C'est plus la peine de venir nous torturer là. On est comme vous, regardez. Peut-être. En tout cas, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'Église, donc les mis à part pour Dieu, qui sont habités par l'Esprit de Dieu, hein, eh bien, s'ils ne se gardent pas à l'abri de l'influence de la société, eh bien, il tombe dans le panneau. C'est l'exemple de l'église de Corinthe. On connaît bien cette église. Elle était réputée pour ses mœurs légères. Et cette légèreté, eh bien, on va finir par la retrouver dans la vie des membres de l'église. 1 Corinthiens 5, verset 1-2, nous dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. » Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Très souvent, lorsqu'il se passe des situations sur ce plan-là, de l'immoralité sexuelle, eh bien, on peut constater parfois un certain laxisme dans la réaction. Et vous n'avez pas, c'est ce qui est dit là, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pourtant, le Seigneur demande qu'il y ait une discipline qui soit appliquée dans l'Église. Et c'est faute de discipline que l'Église est envahi par ce qui est dehors, par les fausses doctrines. Et il semble que le mot discipline, de nos jours, eh bien, est difficile à assumer. Hein, c'est difficile à assumer. Galates 5, versets 7 à 9, nous dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Les fausses doctrines, comme le levain de la pâte, eh bien, contaminent les croyants. Et une petite quantité de mensonges, eh bien, peut corrompre la pensée de beaucoup de personnes. Alors brièvement, la doctrine de Balaam, elle fait référence à l'histoire du peuple hébreu. Alors on ne va pas revenir là-dessus, hein, en détail. Balaam, il avait été mandaté pour maudire le peuple d'Israël, parce que le roi ne voulait pas que le peuple passe par son territoire. C'est-à-dire, il avait peur qu'il s'établisse là. Hein, et donc, il avait demandé au prophète Balaam de maudire Israël, ce que n'avait pas fait Balaam. Par contre, il avait conseillé que l'on puisse mettre devant les yeux des fils d'Israël les filles moabites. Hein. Il a proposé donc que l'on mette en contact l'agent féminine avec les hommes d'Israël, afin que, eh bien, ils puissent se laisser corrompre par leur sens et aussi ensuite par les fausses doctrines, l'idolâtrie qui allait s'en suivre. Donc la doctrine de Balaam, elle autorisait la consommation de viande sacrifiée aux idoles et la débauche. Alors, la viande sacrifiée aux idoles, ce n'est pas tellement le fait de manger la viande elle-même, c'était plutôt ce qui allait avec, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Il y avait donc, la viande, elle n'arrivait pas comme ça sur la table, il y avait une cérémonie, etc. Donc c'était quelque chose de religieux. Hein. Et donc c'était ça surtout qui était le problème dans la situation. Et la débauche. La doctrine des Nicolaïtes, c'est un petit peu la même chose. Elle enseignait que sous la grâce, les croyants étaient libres de pratiquer l'idolâtrie et la débauche. Et ça, c'était dans l'Église. Donc on voit qu'il y avait une cohabitation entre la vraie foi et ces fausses doctrines. Le Seigneur dit à son Église, repens-toi. Parce que notre Seigneur est le Seigneur de la deuxième chance. Il y a toujours une deuxième chance avec le Seigneur. Et il faut la saisir jusqu'à que la porte de la grâce ne se ferme. Hein ? Mais il faut la saisir. Repens-toi. Et il y a même, je trouve qu'il y a quand même un ton menaçant. Repens-toi, sinon, le Seigneur s'occupera lui-même de régler le problème. C'est ce qu'il dit. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous-même, vous les responsables, vous les croyants, eh bien, c'est le Seigneur qui va s'occuper lui-même du problème. Alors, je ne sais pas ce que ça recouvre, en fait, cette chose-là. Mais en tout cas, le Seigneur nous est présenté avec l'épée aiguë, à deux tranchants, à double tranchant, et il est dit, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, c'est avec l'épée de sa parole qu'il va combattre le problème. Sa parole qui sépare le bien du mal, qui sépare le vrai du faux. Hébreux 4, verset 12-13 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Cette épée à double tranchant, c'est donc une image, mais c'était une image de la vie quotidienne, c'était l'épée du soldat romain. Il avait cette épée à double tranchant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur attend une réaction. Dans cette situation, il attend une réaction, il attend, entre guillemets, qu'on puisse faire le ménage. C'est-à-dire mettre dehors de l'Église ces fausses doctrines. Ne pas les laisser se développer dans l'Église. Alors on peut dire, oui, bon, c'est de l'histoire tout ça, c'était il y a 21 siècles, maintenant, on ne fait plus ça dans l'Église. Hein. Mais est-ce que vous ne croyez pas que vous n'avez jamais entendu qu'il peut y avoir des personnes en couple, en concubinage, qui fréquentent parfois les lieux? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a eu des problèmes de pornographie? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des choses comme ça qui se produisent dans l'Église? Mais c'est ça la doctrine des Nicolaïtes. Je peux faire ce que je veux. C'est ce qu'enseignait la doctrine des Nicolaïtes. Je peux me livrer à la débauche. Tout ça parce que le corps était considéré comme méprisable, c'était uniquement l'esprit qui avait de l'importance. Donc tout ce qu'on faisait avec le corps n'avait pas d'importance. C'est ça qui justifie cette chose-là. Hein ? Oui, on est concerné de nos jours par cela. Individuellement, au niveau de l'Église, bien sûr. Mais parfois, les choses ne sont pas sues, ou pas sues tout de suite, ou pas sues rapidement. Mais individuellement, chacun sait, entend. On vient à l'Église pour être confronté à la parole de Dieu. On ne vient pas à l'Église pour se promener, pour passer un bon moment, même si c'est bien de passer un bon moment à l'Église. L'objectif, c'est d'être confronté à la parole de Dieu. L'objectif, c'est que ceux qui en sont chargés expliquent la parole de Dieu. Pour ne pas laisser le manque de connaissances, hein, le peuple périt par manque de connaissances, nous dit la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir réagir. Sinon, on laisse faire les choses et puis au bout d'un moment, c'est trop tard. Il n'y a plus de solution. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui va vaincre, qui va réussir à mettre en pratique ses conseils, plus qu'un conseil, ses commandements, eh bien, il va y avoir des récompenses. Il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Alors ça, je dois vous avouer que j'ai un peu de mal à saisir ce que ça veut dire. Je donnerai au vainqueur la manne cachée. J'ai beaucoup cherché, je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'ait satisfait réellement. Il y avait une manne cachée dans l'arche, dans laquelle on avait mis des éléments de la manne afin de les conserver, que ça puisse servir de témoignage aux générations suivantes. Est-ce que c'est un lien avec ça? Oui, peut-être. En tout cas, il me semble que cette manne cachée, cette récompense, c'est quelque chose de spécial entre Jésus et celui qui a vaincu, à celui qui a réussi à mettre sa parole en œuvre. La manne cachée, c'est une récompense que je n'arrive pas à définir présentement, mais quelque chose de spécial entre Jésus et celui qui a vaincu. Et puis, il est dit aussi, je donnerai aussi un caillou blanc. Alors là, le caillou blanc, ça fait référence à des choses qui existaient à l'époque. Hein. Le caillou blanc, c'était dans les tribunaux, c'était signe d'acquittement. On passait au tribunal, on était déclaré innocent, on ressortait, on nous donnait un caillou blanc. C'était la preuve de l'innocence. Si c'était un caillou noir, c'était le contraire. C'était aussi le caillou blanc un moyen d'invitation à un festin, à une noce. Sur ce caillou blanc, il y avait écrit le nom de la personne qu'on invitait. Et on lui donnait le caillou blanc avec son nom dessus. Il savait qu'il pouvait venir au festin des noces. Vous voyez à ce à quoi je veux faire allusion. Hein ? Donc ce qu'on peut espérer ce matin, tous ensemble, c'est de recevoir ce caillou blanc. C'est de faire en sorte que tout ce qui, dans l'Église, tout ce qui dans notre vie, ne glorifie pas le Seigneur. Parce que je vous rappelle que l'objectif de l'Église, c'est de glorifier le Seigneur. Hein, Je ne viens pas à l'église pour autre chose, je ne viens pas pour faire un show, je ne viens pas pour me mettre en avant, je ne viens pas pour me faire plaisir, même si je peux me faire plaisir en faisant ce que je fais dans l'église. Hein ? Mais je viens dans l'église pour glorifier le Seigneur. Et étudier sa parole, c'est glorifier le Seigneur. Et la mettre en pratique, c'est glorifier le Seigneur. Et si j'arrive à tout cela, si je suis vainqueur, alors je vais recevoir mon caillou blanc. Ce caillou blanc, sur lequel il y aura un nom. Alors là, il est dit que ce nom, il n'est connu que de celui qui le reçoit. Alors c'est un petit peu mystérieux aussi, mais on voit dans la parole, par exemple, avec Abraham et Saraï, ils avaient un nom à un moment donné, on va dire leur nom charnel, Abraham, Saraï, et puis à un moment donné de leur marche avec Dieu, ils ont franchi un pas et le Seigneur les a renommés. Abraham est devenu Abraham et Saraï est devenue Sarah. On voit donc qu'il y a un changement de nom. Donc, ce caillou blanc avec ce nom écrit dessus, mais que ne connaîtra que celui auquel il est destiné, eh bien, on peut imaginer que lorsque nous serons dans l'éternité avec le Seigneur, lorsqu'il nous recevra, eh bien, nous aurons aussi un nouveau nom, parce que l'ancienne personne que nous sommes, elle sera elle aussi glorifiée dans son corps. Et on peut penser qu'il y aura cette chose-là, ce nouveau nom. Alors ce matin, qu'est-ce qu'il faut se dire? Est-ce que ma vie, elle reflète le témoignage de Jésus? Waouh, quelle question! Lui qui est le témoin fidèle. Est-ce qu'on le voit dans ma vie, le témoin fidèle? Est-ce que je suis toujours dans le coup, moi? Hein? Parce que souvent, on est dans l'illusion. Hein? On s'en fait des paravents, des protections. Mais est-ce que je suis vraiment dans la course, moi? Hein? Est-ce que ma vie, elle reflète vraiment la fidélité au Seigneur? Est-ce que la fidélité, c'est vraiment au Seigneur, à sa parole, à la mise en pratique? Est-ce que c'est vraiment à ce que j'aspire? C'est ça la question qu'il faut se poser ce matin. Si nous voulons recevoir de la manne cachée et le caillou blanc avec un nom qui ne sera connu que de celui qui le recevra. Et ce caillou blanc, donc, ce sera pour nous le billet d'entrée au festin de l'agneau qui durera éternellement et auquel on espère tous être conviés. Amen. Merci de votre attention.